Lettre 38e. Calpurnie à Sulpici, Nicomédie, mars 302. Me voici dans cette grande et belle ville, sous le beau ciel de l'Asie mineure, et ce qui vaut mieux encore, bien près de toi, ma Sulpici. Je serais déjà dans tes bras, au lieu de t'écrire, si mon père n'eût désiré que je restasse pour l'arrangement de sa maison, ce qui n'est pas sans difficulté dans un pays étranger. Impossible pour le moment d'aller à Saint-Iome. Ne pourrais-tu donc venir à Nicomédie pour 2 ou 3 jours? Ta santé est assez bien remise, je l'espère, pour pouvoir supporter un voyage de quelques milles. Oh, comme je me réjouis de te revoir après une si longue absence, de causer avec toi du passé et de l'avenir. Sulpici, depuis que je suis ici, tous mes intérêts se raniment. Jamais je n'étais plus éloigné de l'indifférence pour les événements de la vie. Agathoclès vint nous voir le second jour de notre arrivée. Je ne crains pas de t'avouer mon émotion lorsque j'entendis le son de sa voix, qui me parut plus faible qu'autrefois. Il saluait mon père avec tendresse et respect. Puis il s'informa de mes frères et de moi, exactement de la même manière. J'étais dans une chambre voisine lorsqu'il arriva, et je profitai de cette circonstance pour appeler mes esprits. Mon père me fit dire de venir. Mais malgré tous mes efforts, je fus bien trompé dans l'espoir de l'aborder d'un air aisé et naturel. Ses yeux éteints, son regard sombre, qui n'exprime plus qu'une profonde tristesse. La tendresse mêlée de douleur avec laquelle il se félicita de mon arrivée dans sa patrie. L'idée de ce qui avait occasionné un si grand changement, tout cela réuni, m'émut si prodigieusement que je perdis toute contenance. Il avait tant souffert. Ne lui devais-je pas toutes les consolations de l'amitié, plutôt que de l'affliger encore par une froideur affectée? Cependant, je ne le cache pas, mon orgueil était blessé de cette tristesse si profonde que l'arrivée d'une amie peut à peine le distraire un instant. La noblesse de sa conduite et le charme de son entretien dissipèrent bientôt ce mouvement dont je rougis. Mon père entama avec lui l'article de la politique, et je retrouvai l'Agathoclès de Rome dans le feu de sa conversation et la profondeur de ses pensées. Il parut oublier un instant ses peines. Avec quel plaisir je me rappelais, en l'écoutant, les heures délicieuses que j'ai passées ainsi près de lui à Rome. Mais les traces de son abattement sont trop marquées pour que je puisse me faire longtemps illusion. Il me semblait qu'il y avait 2 Agathoclès, celui que j'avais vu jadis si animé, si exalté, dont le sérieux n'avait pu tenir contre ma gaieté, dont le regard passionné, attaché 1000 fois sur moi, me disait tant de choses. Et l'infortuné Agathoclès, avec cette figure si maigre, si pâle et si mélancolique, que la mort d'une femme aimée si tendrement a mis aux portes du tombeau. Je frissonnais. Ce rapprochement me fut extrêmement pénible. Je sentis tout à coup mes yeux se remplir de larmes. Elles allaient couler. Je me levai aussitôt, je sortis, je pleurai abondamment, et pourquoi? Le savais-je moi-même. Mais j'éprouvais du soulagement à laisser couler mes pleurs. Dans mon idée, l'Agathoclès d'autrefois était mort. Celui que je venais de voir n'était que son ombre livrée aux peines du Tartare. Mon cœur était dans un état d'attendrissement tel que celui qu'on éprouve en voyant la statue d'une personne chérie qu'on a perdue. Ces mêmes traits animés d'une expression si différente, cet intérêt d'autrefois, ce froid si glacé d'aujourd'hui. Je ne pouvais supporter cette comparaison. Je sentis que je ne devais pas me montrer dans la disposition où j'étais. Je cherchais à me remettre. Mais quand je rentrais, Agathoclès était parti en promettant de revenir. Je craignais de lui avoir fait de la peine en sortant, mais il paraît que non, et qu'il n'a pas même remarqué ma disparition. Je ne suis donc plus pour lui qu'une simple connaissance. Il ne cherche à se rendre compte d'aucune de mes sensations. Je puis à mon gré le bouder, le quitter, être comme il me plaira, sans que rien de moi lui fasse impression. Tout entier à sa douleur, à la perte de Larissa, il ne songe pas même qu'il existait à Rome une Calpurnie qui lui faisait oublier du moins cette grande passion dont les effets sont si cruels. Celle qu'il revoit à Nicomédie ne lui fait rien oublier qu'elle-même. Depuis cette visite, mon âme est dans un état aussi pénible que singulier. Je suis partagé entre la pitié que m'inspirent les malheurs d'Agathoclès, le désir d'alléger ses peines, et le sentiment amer de n'être plus rien pour lui, de n'avoir jamais été que l'objet d'une relation jadis agréable, à charge à présent peut-être. Non, Sulpice, il ne m'a jamais aimé celui que la perte d'une autre femme laisse dans un tel désespoir. Que résultera-t-il de tout ceci? Comment serai-je avec lui? Toi, mon ami, tu pourrais me rendre un grand service. Tu vois souvent Agathoclès. Il a beaucoup de confiance en toi, je le sais, et tu peux savoir facilement ce qu'il pense de moi. Écris-moi promptement, si tu ne peux venir. Dis-moi comment il parle de Calpurnie. Même avec toi, Agathoclès ne s'avancera pas à feindre, à dire ce qu'il ne pense pas. Fais en sorte qu'elle soit le sujet de votre entretien et dis-moi sincèrement sur quel ton il en parlera. Un mot suffit pour m'éclairer sur ma conduite. Je me repose entièrement sur toi. J'attends avec impatience de tes nouvelles. Ainsi se termine le tome premier de Agathoclès ou Lettres écrites de Rome et de Grèce de Madame Caroline Pichler.